Oui, nous allons commencer cette soirée donc en poursuivant ce séminaire école sur le thème qu'est-ce qu'un analysant, avec deux interventions. L'une de Brigitte Atta dont le titre est La voix psychanalysante. Brigitte Atta, donc, qui est analyste à Reims. Et puis l'autre avec une intervention de Patrick Barillot, qui est psychanalyste à Paris, sous le titre « Analysant hors analyse ». Peut-être que je donne la parole à Brigitte.
Ça va. Voilà.
Là, ça va ? Alors, dans l'ouvrage collectif intitulé « Retour à la passe », ça j'en parlerai sûrement après, Colette Solaire écrit ceci qui oriente mon travail de ce soir. C'est un texte d'ailleurs qui s'appelle « Une par une » et qui est un texte de 1989, mais qui est un texte moi, que je trouve important. Donc elle est...
Là.
Allô ?
On va peut-être essayer de faire comme ça. Tu connais les... Alors, tu refais bien la déco, mais la technique, alors.
C'est dingue, ça fait des années que vous n'avez pas mis. Ouais, est-ce que c'est un symptôme ? Est-ce que
c'est... ça va, là, comme ça ? Pas plus, hein ? Non. Plus près ? Comme ça ?
Oui, il est mis, hein.
Et là, comme ça... Non, ça marche pas. Hein. Là, ça marche pas. Ah, ça marche. Je bouge plus. Alors, dans l'ouvrage collectif intitulé « Retour à la passe », Colette Solaire écrit ceci qui oriente mon travail de ce soir. Je ne retiens, sur les 8 passes entendues, que les 5 où se pouvait apercevoir la perspective d'ensemble de l'analyse avec ses différentes phases de l'entrée à la sortie. Car comment situer un moment, celui de la passe, sans la séquence où il s'insère, un tournant sans ses points cardinaux ? Alors s'il revient à l'analyste, comme le dit Lacan dans le séminaire sur l'acte, de soutenir la tâche psychanalysante, de ne pas la laisser se perdre, et de ne voir que le point où en est le sujet dans cette tâche, il n'en demeure pas moins qu'il est des cures où la trace du sujet se perd. Car même entré dans la voie analysante, rien n'assure que le sujet ne puisse pas en sortir, sans pour autant arrêter ses séances. Alors, le bavardage peut se dérouler en vain, et là encore, je cite Colette Solaire, pour la seule jouissance qui s'y attache, sans produire d'effets structurellement saisissables. Alors, bien qu'elle procède d'un ordre de succession logique, où la structure se réalise, la voie analysante, du début à la fin de partie, n'est pas de continuité, mais de discontinuité qui est celle du signifiant. S'y révèlent donc les obstacles qui retiennent le sujet en deçà de certains seuils, qui sont autant de moments cruciaux dans l'analyse, moments cruciaux qui ne sont pas sans réactualiser l'énigme du sujet et convoquer la position d'où il répond, vérifiant ce que Marc Strauss, d'ailleurs, dans le titre de sa prochaine conférence à Bruxelles, nomme le courage du sujet. Alors, si j'ai choisi, non sans hésitation, car c'est quelque chose que j'ai déjà travaillé, de reprendre ici une lecture du livre de Marie Cardinal, Les mots pour le dire, c'est parce qu'il témoigne, plus que tout autre sans doute, de la tâche analysante et des moments cruciaux, moments qui ne sont pas de passe, mais de franchissement, qui mobilisent, outre l'analysant logique, le courage du sujet. C'est aussi d'ailleurs pour une autre raison que je travaille ce texte dont je suis un peu empêtrée. Mais je ne parlerai pas de ça ce soir. Disons le hiatus entre la voix analysante et l'acte. Alors, c'est avec un mot, la chose, que Marie Cardinal, dans Les mots pour le dire, écrit le tracé de son analyse, tracé qui va de la chose sans nom à son nom de chose. Disons que c'est avec la chose qu'elle écrit et qu'elle prend le symptôme à la lettre. Ainsi témoigne-t-elle d'un savoir-y-faire avec la lettre du symptôme, d'un savoir-y-faire avec la chose. Alors la chose, c'est d'abord un mot. Un mot qui, dans sa concision, englobe un vaste domaine, celui où règne la confusion, la décomposition, la dégradation, l'informe. La gestation n'avait été longue, mais la lenteur, la viscosité, l'absurdité du fait d'exister s'étaient précisées jour après jour dans son esprit, jusqu'à devenir la chose. Elle s'était alors retrouvée seule, enfermée avec la chose et ce qu'elle secrétait, le sang, la sueur, la peur, l'hallucination, la folie. Le symptôme hémorragique dont elle avait fait le centre et la cause de sa maladie l'avait clivée de tout lien social et son existence s'était resserrée autour du trou béant par où tout fuit, hémorragie du sang, du sens et de l'être. Alors le seuil d'entrée. L'entrée en analyse témoigne d'une position du sujet, celle d'affronter la chose plutôt que s'y livrer, non sans avoir d'abord précipité l'acte, passage à l'acte on pourrait dire, qui dégage le symptôme de sa prise médicale. Elle s'enfuit de la clinique où elle devait subir une hystérectomie pour se rendre chez un analyste. « Je n'avais pas conscience, dit-elle, qu'en me livrant au sang, je me déguisais, je masquais la chose. Si le symptôme hémorragique, qui dure depuis 3 ans, cède dès les premières séances et inaugure le transfert de savoir, la chose, elle, n'en est que plus présente. Ce soir-là, dit-elle, il m'a paru évident que la chose était l'essentiel, qu'elle avait tous les pouvoirs. » Je faisais face à la chose. Elle n'était plus aussi vague, bien que je ne sache pas la définir. Alors, les mots comme remède. C'est avec les mots qu'elle va affronter la chose, peut-être parce que c'était ça, dit-elle, l'arme contre la chose, ce flot de mots, ce maelstrom de mots, cette masse de mots, cet ouragan de mots. Ici se repère la syntonie entre l'usage des mots et la chose, tout de gros de la jouissance qu'il secrète et qu'il charrie. C'est d'ailleurs en suivre les occurrences au fil du texte que se repèrent les remaniements subjectifs et les remaniements de jouissance. Si la chose passe au tour et détour de la cure, par pertes et profits, de ce qui s'en réduit à ce qui s'en déduit, les mots pour la dire, quant à eux, se resserrent comme un nœud autour de la chose, jusqu'à en détacher la lettre, irréductible et intraduisible. Alors c'est avec les mots pour se le remettre que Marie s'engage dans la voie de l'historisation, qui rejoint la fiction que le sujet construit dans l'analyse. Au début, dit-elle, j'ai parlé de mes premières rencontres avec la chose, qui s'appelait alors simplement l'angoisse. Puis j'ai parlé des éléments principaux qui constituaient ma vie, des grands pans de mon existence que je connaissais. De ce récit vont s'isoler les figures de l'autre, les identifications du sujet, les idéaux qui les orientent et les premières rencontres de jouissance qui ont fait événement de corps. Alors, les figures de l'autre, si elle découvre que toute sa vie n'était qu'une histoire entre la chose et elle, son père, dit-elle, ne pouvait rien faire pour l'en protéger. Il avait, dit-elle, les dimensions que ma mère lui avait données. Il n'avait pas de dimension propre. Mon père est un inconnu total qui n'a jamais fait partie de ma vie. Pas tout à fait juste d'ailleurs. Alors, reste la figure de la mère, impérieuse, séduisante, autoritaire et secrètement folle. Alors, cette mère idéalisée, redoutée, l'enfant s'est voué à l'aimer, à la séduire pour s'en faire aimer, au point d'abdiquer tout désir qui lui soit propre. La chose survenait chaque fois qu'elle croyait déplaire à sa mère. De cette mère, elle parlera jusqu'à la fin de son analyse, s'employant à décliner, dénoncer les identifications qui l'aliènent à cet autre, dont elle va progressivement déconstruire la statue, la stature, pour enfin y reconnaître la facture qui est la sienne, sa propre fabrique. « Je me suis enfoncée en elle, dit-elle, comme dans un gouffre noir. J'ai dû, jour après jour, faire le relevé de son acharnement à fabriquer un être parfait selon elle. J'ai dû mesurer la force de sa volonté à tordre mon corps et ma pensée pour leur faire prendre le chemin qu'elle avait décidé. C'est entre cette femme qu'elle avait voulu mettre au monde et moi que la chose s'était installée. Ma mère m'avait dévoyée et ce travail avait été si bien fait, si profond, que je n'en étais pas consciente, je ne m'en rendais pas plus compte. La chose, on le voit, témoigne donc d'un écart entre les identifications aliénantes, conformisantes et la vérité de jouissance du sujet, bien qu'elle n'en soit pas consciente. Alors, les alibis du sujet. Si Marie décline les signifiants de son aliénation à l'autre, elle n'en demeure pas moins dans la plainte et dans l'attribution à l'autre de la faute. Ça, c'est quelque chose qui se rencontre très souvent chez les analysants. Alors, autre dont elle préserve néanmoins l'idéal, en tant qu'il est le support de son narcissisme. Comme la chasse, c'est une figure qui revient très souvent chez Marie Cardinal, l'amour sous sa brillance en sert quelque chose de moins glorieux que le sacrifice, de plus dangereux que la perte ou la possession. J'avais commencé, dit-elle, à parler de ma mère, de la difficulté que j'avais eue tout au long de mon enfance à me faire aimer d'elle. Je déversais des souvenirs un peu tristes, puis j'égrenais le chapelet, tant de fois ressassé des attentions, des regards qu'elle avait eus pour moi, inconsciemment, pour me protéger encore, pour ne pas être de la viande saignant à l'étalage, je repoussais l'essentiel. Jusqu'au jour où son analyse va prendre un tournant, imperceptible, mais essentiel. Alors, le tournant, c'est la retrouvaille d'une scène de jouissance qui va amorcer le virage où la relation à l'autre va se dégager de ses alibis imaginaires. L'autre peut contraindre, interdire, il peut prescrire les valeurs, les normes, les idéaux, mais ce qu'il ne peut en aucun cas prescrire ni programmer, pas plus que le sujet d'ailleurs, c'est la réponse de jouissance. L'enfant a 10 ans et observe avec envie les garçons jouant avec leur pénis. En cachette dans les toilettes, elle fabrique un cornet de papier et s'essaie à faire pipi debout comme les garçons. C'est pareil, le cornet, le tuyau, c'est quelque chose qui revient tout au long du matériel de Marie Cardinal. Alors, les gestes qu'elle fait, les tâtonnements pour appliquer le tuyau de papier à son sexe, provoquent une sensation puissante qui monte progressivement de la base des mollets à ses cuisses, envahit son ventre et entraîne son corps dans un balancement de tangage, une sorte de mouvement de reptation qui lui cambre violemment les reins et lui procure une jouissance qui lui fait peur. Dès que la jouissance était passée, dit-elle, j'avais honte, je me sentais coupable et indigne de ma mère, de cette maison, de ma famille, de Jésus, de la Sainte Vierge, de tout. Il fallait que je fasse quelque chose pour me racheter, que je trouve un trésor. Alors, si la petite fille a honte d'avoir voulu faire pipi debout, il ne lui était jamais venu à l'idée d'établir une relation entre le tuyau de papier et la masturbation. La petite fille qui se masturbait, dit-elle, n'existait pas. Elle venait de naître sur le divan du docteur, au fond de l'impasse. Cet enfant me rassurait. J'existais donc, je n'avais pas toujours été entièrement livrée aux autres, je pouvais les tromper, leur échapper, organiser ma propre protection, puisque l'enfant qui se masturbait, c'était moi. Alors, en découvrant dans le même temps que les gestes avec le cornet de papier étaient les mêmes que ceux qu'elle faisait 1000 fois par jour à travers ses couches et ses vêtements pour vérifier l'écoulement du sang, elle en déduit qu'elle devait être pour quelque chose dans sa maladie, qu'elle en était en partie responsable. Jusque-là, dit-elle, j'avais toujours organisé les mises en scène de mon passé de telle sorte que les autres, et ma mère surtout, avaient le premier rôle. Moi, je n'étais qu'une exécutante soumise, une gentille petite fille qu'on manipulait et qui obéissait. C'est après cette séance et en s'appuyant sur cette part d'elle qu'elle vient de découvrir que Marie décide de parler de ce qu'elle appelle la saloperie de sa mère. C'est là où on va avoir la mise au point du fantasme. Alors à 14 ans, sous couvert de la mettre en garde contre les garçons, sa mère lui révèle les conditions qui ont présidé à sa naissance. Conçue pendant le divorce de ses parents, Marie est l'enfant de la honte et de la faute. C'est avec des termes crus que sa mère évoque ses multiples tentatives pour décrocher l'enfant et pour finir, dit-elle, impuissante, résignée, vaincue, elle m'a laissé glisser dans la vie comme on laisse glisser un étron. Alors, entre cet aveu de la mère et son analyse, peu de souvenirs. Durant toute mon adolescence, dit-elle, j'ai arpenté ce désert comme un bœuf qui laboure, tirant la lourde charrue dérisoire de mon amour pour ma mère, désormais inutile. Ma vie baignée à l'extérieur dans le gris, le terne, le correct, le conforme, le muet, et à l'intérieur dans le lourd, le secret, le honteux et de plus en plus souvent l'effrayant. La lente gestation de la chose avait commencé. Alors il y a là, à l'époque de l'aveu de la mère, un effet de destitution subjective qui, lorsqu'elle s'opère hors analyse, est une destitution sauvage. Le sujet qui s'assurait d'une place dans l'autre, en se rangeant sous ses signifiants idéaux, se réduit à l'objet déchet, déchu, laissé tomber comme un étron. Le récit de l'avortement raté lui laissera un profond dégoût d'elle-même. Je ne pouvais être aimée, dit-elle, je ne pouvais pas plaire, je ne pouvais qu'être rejetée. Ainsi, je vivais tous les départs, tous les contretemps, toutes les séparations, comme des abandons. Un métro raté agitait la chose, j'étais une ratée, et par conséquent, je ratais tout. Alors, dans l'analyse, la mise au point du postulat fantasmatique dont le sujet s'assure n'est pas sans effet thérapeutique, car le fantasme donne consistance à l'autre et fait écran au réel. Si pour Marie, les troubles somatiques cèdent, si les angoisses deviennent plus faciles à combattre, elle n'en maintient pas moins la consistance fantasmatique de son autre. Elle se décide alors à parler de l'hallucination. J'en ai déjà parlé il y a un jour. Alors, au bout du tuyau qui vient s'appliquer sur son œil, apparaît un œil qui la regarde d'une sévérité froide, avec des nuances de mépris et d'indifférence. Il ne la lâche pas une seconde, il la scrute intensément, sans complaisance. Alors, durant la séance, à l'évocation du mot « tuyau » que ponctue l'analyste, deux souvenirs de sa toute petite enfance ressurgissent. Alors, celui du train et à ce suite, celui de la caméra. Il est aussi question d'une structure de tuyau. Alors, je ne vais pas les reprendre ici, je donne juste le résultat. Non seulement l'hallucination disparaît définitivement, mais les tensions, la lourdeur, les kilos attachés à son corps cèdent. Elle sent pour la première fois la perfection de son corps. « Je venais de naître, dit-elle, j'étais neuve. » C'est alors avec gourmandise qu'elle va faire usage de ce corps tout neuf. Ça, on rencontre aussi ça souvent dans l'analyse. Alors, la tromperie de l'amour. Mais la chose est revenue sournoisement. La décomposition, dit-elle, était partout. Tout pourrissait. Mon corps tout neuf était en train de pourrir. La nouvelle arme de la chose était plus terrible que les précédentes, plus terrible que le sang, plus terrible que la mort, plus terrible que le cœur qui bat. La nouvelle arme de la chose, c'était l'angoisse pure, droite, sèche, simple, sans paravent, sans bouclier, nue. Je n'étais plus une malade, je n'étais qu'une femme stupide, vieillissante, sans importance, dont la vie n'avait aucun sens, j'étais rien. Elle fait alors l'inventaire du gâchis, de ce qu'elle a accepté, sacrifié au nom de l'amour, pour être digne de sa mère. Un sacrifice pour rien, puisqu'en perdant le mirage de l'amour, il ne lui restait rien. Elle avait été entièrement façonnée par les idéaux de l'autre, de sa mère, de sa famille, de sa classe, de sa religion, pour ressembler à un modèle qu'elle n'avait pas choisi et qui ne lui convenait pas. Maintenant, dit-elle, que je découvrais la supercherie par laquelle ces supplices avaient été pratiqués et endurés jusqu'au bout pour l'amour, que me restait-il ? Le vide, Qui étais-je ? Personne. C'est l'horreur de savoir qu'elle cerne alors d'un trait. Le plus effrayant, dit-elle, n'était pas d'en être là, mais de savoir que j'y étais, et de le savoir dans la clarté froide et dans la certitude que donne la psychanalyse. Le silence, dès lors, envahit les séances, il ne se passe plus rien, seulement ce désert gris, plat, le même que celui de son adolescence. Il lui arrive d'oublier ses séances ou de s'y endormir. Marie doute d'elle, de l'analyse, de l'analyste. Elle pense à laisser tomber son analyse et à reprendre ses médicaments. Alors il y a là un carrefour qu'on rencontre hein, dans les cures, un carrefour dont l'issue dépend d'un choix éthique du sujet. C'est presque sans s'en rendre compte qu'une porte s'est ouverte. Des fragments épars, des bribes de souvenirs, choses vues ou entendues, pourtant déjà maintes fois évoquées dans l'analyse, reviennent, s'animent, s'attirent les uns les autres, sans souci de chronologie, de cohérence ni d'importance. Tous apparaissent dans la clarté froide d'un regard que l'amour n'aveugle plus et sont autant de rencontres avec les traces de la jouissance de l'autre. Au-delà de l'enfant obéissante et son regard qui lui soit propre, il y a l'enfant qui a un œil, et quel œil ! Un œil qui était sensible à la chose, un œil que la chose bouleversait, un œil qui avait vu la chose dans sa mère. Alors ici se repère un retournement, une torsion par rapport au montage décrit dans l'hallucination. Retournement qui fait apparaître le mode de jouir du sujet et sa position de metteur en scène. L'œil de la mère qui la regarde et évalue ses gestes, c'est aussi le sien, un œil qui scrute son autre intensément, sans complaisance, avec des nuances de mépris et d'indifférence. C'est son propre regard, son œil sensible à la chose, qui prêtait à l'autre sa consistance de jouissance. Alors cet aperçu de l'objet, où le sujet reconnaît sa mise, n'est pas sans changer sa position à l'égard de son autre, on pourrait dire de son autre traumatique, qu'il fait déconsister en lui ôtant la dose de jouissance que son fantasme lui imputait. « Je croyais être une soumise, dit-elle, et j'étais une révoltée, j'existais. Je ne comprenais pas encore complètement le sens de ma découverte. » Je savais seulement que je possédais un caractère qui m'était propre et qui n'était pas si facile que cela. Je comprenais pourquoi le dressage avait été tellement cruel et intensif. Il y avait en moi une indépendance, un orgueil, une curiosité, un sens de la justice et de la jouissance qui ne cadrait pas avec le rôle qui m'avait été dévolu dans la société de ma famille. » Pour étouffer tout cela ou n'en laisser apparaître que la mesure convenable, il fallait frapper fort et longtemps. Le travail avait été bien fait, la seule partie qui était restée intacte, c'était mon sens de la chose. Dans le fond, j'ai toujours su que ma mère était une malade et au centre de la grosse boule de mon amour pour elle, il y avait un cœur dur fait de peur d'elle et de mépris trempé d'orgueil. La rencontre avec ce qu'elle considérait alors comme des défauts lui donne une assurance qu'elle n'avait jamais eue. Il la protégeait mieux que ses vertus. Selon qu'elle les manipule d'une manière ou d'une autre, plutôt que de les repousser, ils deviennent des outils utiles à sa construction. C'est ainsi, dit-elle, que j'ai découvert mon plus grand défaut, celui qui anime mes plus grandes qualités, celui qui me donne par moments un réel pouvoir, celui qui fait de moi la personne que je suis véritablement. Alors que les séances, sans qu'elle sache pourquoi, sont envahies par ses pleurs, il suffit par exemple pour cela que le téléphone sonne pendant la séance, elle retrouve le souvenir d'une scène survenue alors qu'elle a 2 ou 3 ans. Une dispute avec son frère plus âgé la met dans un tel état de fureur que sa mère lui flanque une paire de claques. L'enfant hurle, trépigne, une nouvelle gifle tombe et la rend encore plus enragée. Sa mère et la nounou l'emmènent alors dans la salle de bain où le jet d'eau froide la prend en pleine face et lui coupe le souffle. Il faut que ça s'arrête. pour faire cesser la colère qui fuse par tous les pores de ma peau, dit-elle, par mon être entier, je fais un effort énorme. Au fond de moi monte une puissance colossale qui contraint ma rage, la volonté. Et un autre pouvoir vient à ma rescousse, la dissimulation. Toutes mes forces sont mobilisées pour saisir ma violence, l'enfermer, l'enterrer le plus loin possible. Alors sur le divan, à la retrouvaille de cette scène, ses pleurs cessent. Elle vient de retrouver stupéfaite sa violence. La rencontre avec ma violence, dit-elle, est intervenue quand il le fallait. Je ne l'aurais pas supporté avant, je n'aurais pas été capable de l'assumer. Avec cette conscience de sa violence est venue la conscience de sa vitalité. J'étais presque construite, dit-elle. Alors, la seule partie qui était restée intacte, qui avait résisté à la régence de l'autre, était donc son sens de la chose. La volonté l'avait repoussée, la dissimulation l'avait préservée. Marie, comme la chasse, recelait sans le savoir, au-delà des parures propres à tromper l'autre, ce qu'elle avait de plus précieux, son sens de la chose. Bien qu'elle connaisse mieux ses frontières, qu'elle se sente à l'aise dans sa vie, Marie sait que sa psychanalyse n'est pas terminée. Des zones lointaines restaient floues, situées dans des confins mystérieux dont elle ne s'approchait guère. Quelque chose, dit-elle, n'était pas défini dans ma géographie. Il y avait une zone blanche sur la carte de ma personne, une zone inconnue, cachée. Alors, un rêve, je l'avais déjà évoqué aussi, celui du colombier, ouvre alors sur une autre trouvaille. Les mots et leur prise de jouissance sur le corps, et c'est avec cette trouvaille que Marie va s'avancer vers ce qu'elle nomme les confins et conclure sur l'impossible, celui du trou qu'aucun mot ne bouche. Je ne le reprendrai pas parce que ça, c'est le virage final pour Marie Cardinal. Alors, déjà, les mots étaient devenus, dans l'analyse, instruments à délinéer le réel. Je constituais des petits tas de mots et d'images que je groupais ensemble, selon que je les rattachais au chien, au tuyau, au frigidaire. Mots-clés que nous avions détachés de mon vocabulaire habituel et qui, dans leur concision, servaient à désigner une zone entière, parfois très vaste, de mon individu. Les explications de mes rêves ne pouvaient donc avoir de sens que pour lui et moi. Après le rêve du colombier, Marie découvre qu'il ne suffit pas de ranger les mots dans un ordre cohérent, convenable et esthétique, comme on installe chez soi des objets et des meubles. Après ma découverte des mots, dit-elle, j'avais cessé d'écrire pour moi. Il fallait que je prenne un temps. Je ne pouvais plus écrire comme avant. Marie s'intéresse alors à l'imprimerie, à la typographie. Les mots, dit-elle, ces étuis pleins de vie, sont eux-mêmes contenus, quand ils sont écrits, dans les étuis des lettres. Chaque type de caractère a un style qui lui est propre et qu'il communique aux mots qu'il dessine, et à la matière qui est dans le mot. Chaque peuple invente des caractères qui lui ressemblent. C'est avec la lettre, celle de son symptôme, que Marie Cardinal forgera l'écriture qui est la sienne, violente, volontaire et dissimulatrice. Comme la chasse, elle dissimule sous un ornement de fioritures un œil qui a le sens de la chose. Sans doute, est-ce pour cela d'ailleurs qu'elle est une des rares à avoir osé l'écriture d'une cure, qui d'ailleurs reprend l'ensemble du processus, et de l'avoir écrit à partir de l'impossible même à l'écrire. Parce que l'analyse, dit-elle, cela ne peut pas s'écrire. Il faudrait des milliers de pages répétées pour exprimer interminablement le rien, le vide, le vague, le lent, le mort, l'essentiel, le parfaitement simple. Et puis, dans cette immense monotonie, quelques lignes fulgurantes, les secondes lumineuses où apparaît la vérité entière, dont on ne prend qu'une parcelle, croyant la prendre toute. De nouveau ensuite, pendant des milliers d'autres pages, le plat, l'indicible, la matière en gestation, la gestation de la pensée, l'informe, l'inestimable. De nouveau, l'étincelle éblouissante de la vérité. Et ainsi de suite. Énorme livre boursouflé avec des pages blanches où seraient justement le rien et le tout. Fantastique volume, fait de tout le papier du monde, de toute l'encre, de tous les mots, de toutes les lettres, de tous les idéogrammes. Autrement dit, un impossible. Il n'en reste pas moins que c'est bien l'étoffe d'une psychanalyse qu'elle nous livre, étoffe dont les nœuds qui s'y écrivent, dans l'analyse d'ailleurs, ne disent rien que des trous qui s'y trouvent.